C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Catherine, le festival Juste pour rire 2024 est annulé. L'entreprise va se protéger de ses créanciers en vertu de la loi sur les faillites et l'insolvabilité. Évidemment, c'est une bombe dans le milieu culturel. On va parler de tout ça avec le porte-parole de Juste pour rire, Julien Provencher-Proulx. Bonjour, M. Provencher-Proulx.
Bonjour, M. Lagacé.
D'abord, quelles sont les dettes du groupe Juste pour rire? C'est ce qui est invoqué là dans les communications de l'entreprise pour expliquer en partie là, le retrait de Juste pour rire 2024.
Écoutez, il n'y aura pas d'information financière qui va être dévoilée aujourd'hui à proprement dit. Vous comprenez que aujourd'hui, ce qui est déposé, c'est un avis d'intention là, de faire une proposition en vertu de la loi sur la faillite et l'insolvabilité du Canada. Effectivement, il y a des difficultés qui ont été rapportées là, parce que pour l'industrie des médias et des festivals gratuits, il y a une période difficile là, qui est traversée depuis plusieurs années. Évidemment, la pandémie a eu un impact important. Puis, mais depuis que la pandémie est terminée, il y a une période d'inflation également là, qui a un impact là, pour les festivals gratuits et les médias.
Comment l'inflation affecte le milieu des festivals et de l'humour, par exemple?
Bien, vous connaissez l'inflation. C'est un phénomène économique qui fait en sorte que les coûts augmentent. Alors, ça crée une pression additionnelle sur les structures de coûts. Or, cette inflation-là, elle survient tout juste après la pandémie. Hein. On s'en souvient, la pandémie a affecté là, le milieu culturel, notamment quand il était question de vente de billets. Alors, les entreprises de ce milieu-là ont dû continuer à faire face à leurs coûts fixes et pendant ce temps-là, les recettes n'étaient pas au rendez-vous. Alors, au sortir de la pandémie, là, on a une hausse de coûts. Alors, c'est sûr que ça met beaucoup de pression là, sur les montages financiers.
Je comprends, mais des hausses de coûts, donnez-nous quelque chose de concret. Parce que j'ai l'impression que des hausses de coûts, ça peut être très large. Comment l'inflation affecte directement le festival Juste pour rire?
Bien, comme je vous explique, là, c'est sûr que tu sais une organisation comme le festival Juste pour rire a plusieurs obligations, doit faire face à toutes sortes de dépenses. Là, c'est complexe l'organisation d'un festival. On rentrera pas dans ce genre de détails là, mais ça impacte l'ensemble du montage financier. Alors c'est pour ça là qu'aujourd'hui le conseil d'administration arrive à cette conclusion là qu'il n'y a pas d'autre choix de déposer cet avis d'intention là.
Ça se peut-tu que ça a été mal géré aussi?
Non, je suis pas d'accord avec votre supposition.
Pourquoi?
Ben, écoutez, comme je vous dis, là, il y a vraiment une conjoncture qui est pas favorable à cette industrie-là. Alors, c'est ce qui explique là, la situation d'aujourd'hui. Il n'y a pas de questions relatives à la gestion de l'entreprise.
Non, mais il y a quand même beaucoup de joueurs clés qui sont partis des dernières années, des derniers mois.
Ben écoutez, le milieu au complet fait face là à des difficultés. Alors,
Y a-t-il un autre festival qui a fait faillite?
Ben regardez, faisons attention là avant de jeter la pierre sur qui que ce soit. Là, je pense que tout le monde fait des efforts pour faire face à la situation. Évidemment, personne ne se réjouit là de la situation aujourd'hui. Hein. Bien sûr, nos pensées vont avec. Les
artistes. Non, je comprends. Écoutez, je m'excuse, M. Provencher-Proulx, là. Revenons à la question. Il n'y a pas d'autres festivals qui ont annoncé qu'ils faisaient faillite. Je comprends que c'est dur pour tout le monde, mais personne n'a fait faillite. Mais il y a sûrement quelque chose dans l'eau à Juste pour rire pour expliquer ce qui s'est passé, parce que tout le monde est dans le même environnement.
Oui. Bon. Attention, là. Aujourd'hui, ce n'est pas une faillite qui est annoncée. Hein.
OK.
C'est une
y a
protection.
Pas, je vais vous reposer la question. Y a-t-il d'autres festivals qui se sont placés sous la loi sur les faillites et l'insolvabilité?
À ma connaissance, non.
OK.
Il y a des spectacles qui ont été annulés. Par exemple, Waitress, l'humoriste Nive, Eve Côté, Jean-Sébastien Girard, Louis T., Mélanie Couture, Mesmer pour les représentations pendant le festival. Qu'est-ce que vous avez dit à ces gens-là ce matin?
Écoutez, moi, je n'ai pas là le détail par rapport à la cascade de communication là, qui a été offerte à ces gens-là. Évidemment, comme je vous dis, nos pensées vont avec eux. On ne se réjouit pas du tout là, de la situation. On a beaucoup, bien sûr, beaucoup d'admiration pour les artistes là, que vous nommez. Mais je n'ai pas d'autres commentaires à faire par rapport à la communication qui a été fait ce matin.
OK. Permettrez une question supplémentaire, Monsieur Provencher-Proulx. Est-ce que ces artistes-là l'ont appris dans le journal ou ils ont eu un préavis?
Écoutez, j'espère bien que personne n'a appris ça dans le journal, là. Évidemment, je veux pas me commettre, là, tu sais, si jamais il y a eu un cas, là, tu sais, comme ça. Évidemment, la cascade de communication qui était prévue, là, disait évidemment à faire tout ça dans le respect et à ce que personne l'apprenne, là, d'une façon qui n'est pas appropriée.
Très bien. Merci de vous être rendu disponible. Je vous souhaite une bonne journée.
Avec grand plaisir. Bonne journée.
À la prochaine. Julien Provencher-Proulx travaille pour National, la firme qui est embauchée pour faire les relations publiques de Juste pour rire. Bon, de retour en studio, on a enregistré cette entrevue avant l'émission. Dave, je veux te donner la parole. Tantôt, tu y as fait allusion, là, évidemment, tu as plein d'amis en humour, t'as enseigné en humour. Il y a une forme de choc présentement, même si on avait des échos.
Ben oui, parce que, Juste pour rire, suite à la vente de Gilbert Rozon à un autre groupe, Juste pour rire avait réussi quand même à convaincre des gens de rester avec eux. Il était pas juste dans le spectacle, hein, il faisait de la télévision. Et, vous avez vu là, un paquet de noms dont on vous a parlé. Et c'est très large. Je pense à... Parce que c'est un immense succès, là. Je pense à tous les étés, à la comédie musicale qui est présentée.
Ouais, cette année, c'était Waitress.
Voilà. Et là, ce serait annulé. On va mettre encore du conditionnel parce qu'il y a des
infos. Québec et Montréal. J'imagine que le groupe devait partir en tournée. Je sais pas si...
En toi et moi, avec la grosseur. Je pense que si c'est pas Québec et Montréal, en toi et moi, ça sera pas à Saint-Hyacinthe.
C'est des détails qu'on n'a pas, malheureusement.
Parce que, tu sais, en passant, là, avant même, là, que Gilbert Rozon vente pour les raisons qu'on connaît, Juste pour rire, j'ai jamais eu une très bonne réputation. C'est-à-dire qu'on l'appelait ça la Tour de Babel. Quand tu commençais Juste pour rire, là. Et je me rappelle le rêve des étudiants, c'était de dire, écoute, si je pouvais avoir mon number dans un gala, ça va lancer ma carrière. Et moi, je leur disais, je suis pas entièrement d'accord avec vous, je pense que le marché s'élargit, je pense qu'Internet est plus puissant. Vous avez remarqué que les galas aussi, ça s'était effrité. Ouais. Les gens étaient plus prêts à payer des centaines de dollars.
On les avait retirés, d'ailleurs, à Juste pour rire, les galas.
Oui, l'année passée.
Oui, exactement.
Le dernier était diffusé sur Amazon Prime. Je vous le conseille pas, c'était terrible. Et puis, même des humoristes connus, il y avait un malaise dans cette organisation-là. Et je me rappelle, moi, j'ai travaillé là 2 ans. Et pourquoi on appelait ça la Tour de Babel? On parlait à quelqu'un et notre soundcheck, c'était quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre nous parlait. Et là, on s'est dit, avec le temps, il faudrait que cette entreprise-là... Donc, je pense que si tout ça n'était pas arrivé, là, si Gilbert Rozon avait été un homme droit, il serait encore en tête de ce groupe-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on dirait la même chose? Malheureusement, tout le monde, je pense que oui. Je pense que ça a toujours été un peu bric-à-brac. Est-ce que tu disais au départ, où tout le monde, c'est un peu... On est à l'ère de l'autoproduction et tout ça. Ben oui, les bordels. Oui, le jeune humoriste qu'on a reçu hier, qui est sur Instagram,
Bruno Lee,
il nous disait, venez me voir ce week-end dans un bar de Montréal. Ben, c'est ça, la nouvelle réalité. C'est pas venez me voir dans un gala. Et en plus, où la télévision s'effrite, quand on faisait un numéro dans un gala, là, c'était un numéro de 10-15 minutes, il charcutait ça. Ça se ravassait avec 5-6 minutes à TV. Et ça devenait souvent incompréhensible parce que l'histoire ne se racontait plus. Tout cela que je vous dis tout ça, là, mais reste que le corps est encore chaud. Moi, pour qui j'ai de la peine, c'est les gens qui travaillaient dans la boîte, parce que c'est vrai qu'ils travaillaient fort et qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Mais même eux nous disaient, je pense que tu as parlé déjà toi aussi, Patrick, aujourd'hui, Catherine, puis les gens nous disaient, écoutez, on n'est pas certainement déconnectés. Là. Ça fait des années qu'on sait que la boîte, elle marche plus, que c'est tout croche, que ça va comme ça peut, puis que les artistes qui sont produits par cette boîte-là savent pas trop. Puis là, il y en a plein qui nous écrivent depuis ce matin, même encore là, notre spectacle, eux-mêmes le savent pas, ils se font bombarder de messages, j'ai acheté des billets, est-ce que je vais avoir un spectacle? On le sait pas.
D'ailleurs,
je sais pas ce qui va arriver. S'ils s'en sortent, tant mieux, je pense qu'ils ont un gros ménage à faire. Puis s'ils s'en sortent pas, ben c'est un nouveau modèle.
Attendez d'ailleurs, avant de commencer à demander à vous faire rembourser, là, donnez quelques jours pour que les artistes puissent au moins se revirer de bord. T'sais, j'ai vu que Jean-Sébastien Girard avait fait une publication en disant on essaye avec le management, mon équipe à moi, de produire la fin de ma tournée. Donc, tu sais, peut-être aujourd'hui, là, si vous avez des billets d'acheter, attendez. Ne paniquez pas. Il y a des façons de se faire rembourser. On va vous les énumérer un peu plus tard, mais il y a des façons. Vous allez avoir votre argent. C'est juste que peut-être que vous allez pouvoir voir le spectacle aussi pour lequel vous avez acheté des billets.
Et en terminant, ce qui me fait de la peine, c'est plus pour Montréal. Tu sais, Montréal, là, le centre-ville, on le dit, les gens travaillent plus à la maison. Puis oui, il reste des festivals, bon, les Francofolies, tout ça. Mais tu sais, ça occupait pratiquement un mois au centre-ville où les touristes viennent. Et oui, on critique beaucoup Montréal qui est souvent tout croche avec des cônes et tout. Mais avoir de l'action dans un centre-ville, c'est important. Et la place des spectacles, on l'a entre autres construite pour ça. Puis là, ben ça, c'est dommage, parce que là, il va y avoir moins de vie, puis moins de... Parce que ça, c'est sûr, ça n'aura pas lieu. Là. Vous irez pas vous promener au centre-ville, puis vous verrez pas des gens avec des grosses têtes. Puis je sais qu'il y en a qui faisaient des blagues ce matin en disant hey, la parade des jumeaux, c'est pas une grande perte pour l'humanité.
Il y en avait plus non plus.
Puis non, je sais bien. Okay. Mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, tout le monde.
Non, mais pour sur le plan économique, c'est important aussi. Quand il y a des festivals comme ça, il y a des touristes qui débarquent en ville, et c'est bon pour la ville de Montréal, ça amène des gens au centre-ville. Il y a tout ce facteur-là aussi qui ne sera pas là parce qu'il n'y en aura pas de festival.
Ceux qu'on appelle les comédiennes, tu le disais tantôt, Patrick, t'sais, on était quand même une plaque tournante de l'humour dans le monde. C'est-à-dire les grands, grands noms de l'humour venaient ici, là, les Amy Schumer et autres. Là.
J'ai l'impression que du côté anglais, c'est encore très, très gros, Just for Laughs. C'est encore très couru. Puis quand il a acheté, l'humoriste canadien Howie Mandel l'a dit, il dit, c'est encore un pôle d'attraction. J'ai l'impression que du côté francophone, au Québec en tout cas, il y a eu un transfert des habitudes. Tu sais, il y a une génération complète de gens qui allaient voir des shows d'humour, qui allaient voir des shows dans des grandes salles, qui allaient, justement, c'était le modèle un peu du gala, là. Aujourd'hui, je le disais tantôt, un peu comme les habitudes de consommation, d'information, de contenu ont changé. Les gens sont allés sur des nouvelles plateformes, sont plus nécessairement en train de regarder un poste de télé à une heure donnée. Ben, il y a eu un transfert des habitudes aussi. Puis, tu as une génération qui a été élevée à juste aller dans un bar. Puis voir, que ce soit au bordel Comedy Club ou l'autre, c'est le central, c'est ça?
Non, ça commence par T,
Le terminal. Le terminal sur Montréal. On va aller voir un show d'humour. Puis, il va y avoir toutes sortes d'humoristes qui vont être là. Oui, ben, des fois, on va payer...
bien moins cher que de payer, genre, 150 $ pour aller voir...
Exactement. Et l'autre affaire, même si je les connais pas, ce qui est une bonne nouvelle, en passant.
L'autre affaire, quand tu voulais rire dans les années 90, dans les années 2000, j'exagère un peu, vous comprenez ce que je veux dire, là. Quand tu voulais rire, tu regardais la télé à des postes précis, t'achetais un billet pour y aller. Aujourd'hui, tu prends ton petit téléphone, tu regardes tous tes humoristes préférés, tu regardes Arnaud Soli, qui te fait des numbers gratuits sur ton téléphone. Ça aussi, bout à bout, mets tous ces facteurs-là, le mauvais management de juste pour rire, et je pense que ça donne aussi ce qu'on a vu aujourd'hui.
Moi, je voulais juste revenir sur l'esprit d'une gestion de crise. Là. Ouais. Quand on vit une crise comme celle-là, et qu'on engage un porte-parole, je conseille à n'importe quelle organisation que votre porte-parole soit capable de répondre à au moins deux des questions qu'on va lui poser. Ouais. C'est la morale de cette histoire aujourd'hui.
Martin Roy, il est le président directeur général du regroupement des événements majeurs internationaux, ce qu'on appelle le REMI. Monsieur Roy, bonjour.
Bonjour à vous deux.
Est-ce que c'est un problème spécifique à Juste pour rire?
Non, ce n'est pas un problème spécifique à Juste pour rire. Je vous entendais un peu avant, et je vous ai bien vu votre scepticisme et votre incrédulité là, par rapport à l'inflation, mais c'est vraiment, en tout cas, une partie du problème, c'est clairement l'inflation. Les événements, les festivals me disent qu'il leur en coûte aujourd'hui, là, en 2024, 35-40% de plus qu'en 2000 pour faire un événement comparable. Ça veut dire que les scènes sont plus chères, que les artistes coûtent plus cher, que tout coûte plus cher. Et que les revenus n'ont pas suivi ceux de subventions et de commanditaires, a priori, mais aussi la billetterie. Dans ce cas-là, il n'y en a pas de billetterie. Enfin, quand les événements sont présentés partiellement gratuitement et dans certains cas.
Non, mais, M. Roy, est-ce qu'on peut comparer un festival qui a été créé par une organisation à un festival, une organisation comme Juste pour rire, qui venait d'être achetée il y a quelques années pour 65 millions, ce qui était, de l'avis de beaucoup d'observateurs, beaucoup trop cher?
Ben, écoutez, moi, pour ce qui est du groupe, puis de la transaction, puis des troubles qu'il y a pu y avoir en 2017 dans la passation, puis tout ça, je veux pas revenir là-dessus. Puis moi,
pourquoi?
Encore une fois, c'est le festival. Moi, c'est le festival qui m'intéresse, là, d'abord et avant tout. Moi, le groupe, toutes les activités du groupe, puis tout ça, je peux pas vous dire là, que j'en fais ma spécialité, puis les activités à l'international, puis tout ça. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est multifactoriel. Il y a certainement des problèmes qui sont dans le groupe, juste pour rire, mais le festival, oui, il y a l'inflation, mais il y a le modèle d'affaires, qui est un modèle d'affaires qu'on a déjà nous mis en cause. Déjà en 2019, on avait fait des sorties publiques là-dessus. Tu sais, je vous donne un exemple. À l'époque, dans les années 2000, vous alliez au festival de jazz, vous alliez au festival Juste pour rire dans le quartier des spectacles. Il n'y avait pas de restaurant, c'est un désert alimentaire. Vous achetiez votre bière au festival, vous achetiez votre hot dog. Bon, ça représentait 19% des revenus des festivals à l'époque. Aujourd'hui, ça représente moins de 4%.
Pourquoi? Donc, qu'est-ce qui a changé pour que ça
arrive? C'est que justement dans le quartier des spectacles, on est un peu victime du succès. Je veux dire, tout le monde va aller acheter sa bière chez Saint-Hubert, puis acheter son hot dog chez La Fleur, puis autour. Tu sais, dans le fond, c'est que les événements ne captent plus les revenus. En tout cas, c'est une partie de l'explication. Encore une fois, je vous dis pas que c'est le seul problème, c'est multi. J'imagine que les solutions aussi, il n'y a pas personne qui a la clé, là, puis qu'il y a une solution. Il va falloir que ça vienne de l'ensemble des subventionnaires, des partenaires, puis que chacun fasse quelque chose.
Mais justement, si on parle des subventions, parce que j'imagine que, en bout de ligne, ce que vous voulez, c'est peut-être demander plus d'argent aux différents paliers de gouvernement et peut-être à la ville de Montréal. Mais à un moment donné, je pense qu'il y a une limite là, à payer. Il faut que les festivals soient capables aussi d'aller chercher d'autres sources de financement avec des commanditaires, avec...
Absolument. Les festivals membres du Rémy, puis juste pour rire comme le jazz ou d'autres, les festivals membres du Rémy sont subventionnés à 18%. Donc, ça veut dire qu'il y a 82% de revenus autonomes. Ça veut dire que c'est certainement moins que ce à quoi vous attendiez, là. 18%, c'est quand même pas, là, la majorité des revenus qui viennent de l'État. Ça veut dire qu'il a des revenus autonomes. Bon, dans le cas des festivals qui sont présentés gratuitement, j'insiste là-dessus. Il n'y a pas toujours, évidemment, pour ce qui se passe sur la place des festivals, il n'y en a pas de billetterie. Alors, nous, c'est pour ça qu'une des solutions, par exemple, qu'on avait amenées dans le débat public l'année dernière, en marge de notre Assemblée générale annuelle, c'est qu'on avait dit, la Ville de Montréal, elle doit nous permettre quand même de tarifer certaines activités. Ça ne veut pas dire qu'on met en cause le principe de gratuité. Au contraire, on y croit. On croit que ça distingue Montréal de l'ensemble des autres villes, puis de l'animation qui est dans le centre-ville, c'est extrêmement important, puis c'est grâce à ça. Mais est-ce qu'on peut créer tantôt une zone VIP, tantôt un avant-scène qui est payant, etc., sans mettre en cause la gratuité en général, mais d'aller chercher quelques revenus avec ça, parce que autrement, la mathématique est quand même assez simple. Je pense que tout le monde sait que les subventions des gouvernements n'ont pas augmenté de 35 ou 40% depuis 2019, pas plus que les commandites. Alors, il y a un problème, je veux dire, mathématique très, très simple.
Mais, M. Roy, je vais vous dire, j'ai quand même un problème à ce qu'on soulève la possibilité de peut-être faire payer le citoyen, qui est aussi un contribuable. Quand je regarde, vous me dites que c'est à 18% que les festivals sont financés. Quand on privatise une partie de l'espace au parc Jean Drapeau pour Evenco, puis son festival dont j'oublie le nom...
Oceaga.
Quand il y a d'autres festivals qui recevaient des subventions pour faire des spectacles en direct... On créait une compagnie sur le side pour filmer ça. Ça, 100% des profits, ça restait par contre d'un festival dans l'autre patente. Ça, je sais pas où c'était comptabilisé dans l'équation.
Oui, écoutez, ça, on l'a entendu, là, ça fait 20 ans que j'entends ça, mais les
codes de
déontologie. Non, mais écoutez, il y a des codes de déontologie qui existent, qui ont été créés. Les gouvernements se sont attardés à ce problème-là, ou enfin à cet enjeu-là. Puis ils ont convenu que tout était legit, comme on dirait. Puis vous le savez, en fait, un des problèmes à la base qui a été, ça pourquoi il y a cette structure corporative-là, c'est que le ministère, que Patrimoine canadien ne subventionne pas les entreprises culturelles et ne subventionne que des organismes à but non lucratif. Donc à la base, c'est comme ça que ça a été créé. Ceci dit, oui, on met des subventions, mais on a toujours fait valoir que les retombées sont plus importantes que les subventions. Dans le cas de Juste pour rire, annuellement, c'était 34 millions de dollars qui étaient créés
selon
au PIB.
Qui? Selon la firme embauchée par Juste pour rire ou par le lobby des festivals?
Non, pas du tout. Selon la méthodologie qui a été faite par le ministère des Finances à Québec.
Alors, je vous soumets respectueusement qu'il y a des profs d'université qui ne dépendent pas des festivals pour vivre, qui disent que c'est hautement gonflé, toute cette affaire de retombée.
Je vous réfère moi-même à un article de Vincent Brousseau-Pouliot dans la presse il y a quelques années qui faisait la démonstration éclatante que c'était quand même rentable. Okay. Alors,
si,
je comprends, là,
si ça va si mal dans le milieu des festivals, pourquoi est-ce que Evenco vient de dépenser des millions pour racheter certains festivals à Olivier? C'est Olivier qui?
Olivier Primo, exactement.
Ouais. Écoutez, encore une fois, j'en reviens à ça. Je vous parle d'un modèle d'affaires. Il y a différents modèles d'affaires dans l'industrie festivalière. Ils n'ont pas tous le même modèle d'affaires. Les festivals qui ont été achetés ou rachetés récemment, Métro, Fuego, c'est des festivals avec une billetterie. C'est quand même extrêmement important. Puis je vous dis pas que les problèmes qui sont vécus par le jazz, Franco, Juste pour rire, Nuit d'Afrique, Présence autochtone, Fierté Montréal, sont les mêmes que le Festival d'été de Québec ou que Hochelaga, par exemple. On est dans la même industrie, mais on n'est pas du tout dans le même modèle d'affaires. Il y a des extrêmement importantes différences à faire entre les différents types de festivals.
Mais M. Roy, pourquoi, habituellement, quand vous terminez une édition de festival, peu importe le festival, on doit soumettre, j'imagine, des états financiers pour pouvoir toucher à nos subventions pour l'année d'après. Comment ça se fait que personne lève le flag si à un moment donné, on voit qu'il y a un festival qui s'en va dans le mur puis qui n'est pas rentable depuis une couple d'années? Il doit avoir un drapeau rouge qui doit se lever quelque part.
Ben écoutez, de façon générale, les subventions sont extrêmement, contrôlées, autant sur les redditions de comptes que les formulaires. Est-ce que ça veut pas dire que l'édition, la dernière édition, en tout cas, j'ai pas regardé les états financiers de la dernière édition de Juste pour rire, je sais pas exactement qu'en était-il du surplus ou du déficit. Puis là, encore une fois, faut ramener ça beaucoup plus largement parce qu'on parle du groupe Juste pour rire et non du festival, ou enfin que du seul festival. T'sais, je peux pas dire que c'est ce qui explique ou que le festival explique les problèmes à 100%, les problèmes du groupe aujourd'hui. Dans quelle mesure c'est un problème plus large? Moi, j'ai pas toutes les informations, puis je suis pas porte-parole de l'organisation, là, mais vous comprenez que c'est le festival est quand même une des activités. On peut parler, encore une fois, je reviens sur l'aspect multifactoriel de ça, mais...
Dernière question, juste pour être clair, vous êtes pas payé par Juste pour rire, ça c'est clair, M. Roy, mais en tant que PDG du regroupement des événements majeurs internationaux, vous êtes payé par les festivals.
Oui, c'est-à-dire que l'association est financée par ces festivals.
Parfait. Merci, bonne journée.
Merci.
Martin Roy, PDG du regroupement des événements majeurs internationaux.
Patrick Lagacé, en accéléré.
On va rebondir sur le dossier de la presse d'hier sur les cas d'isolement d'enfants au centre jeunesse de Laval. C'est tellement préoccupant que le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, a déclenché une enquête administrative. La Commission des droits de la personne et des droits de la personne et des droits de la jeunesse également. On parle d'enfants dits tannants qui étaient placés dans des cellules qui auraient plus leur place, disons, dans une prison que dans un centre jeunesse. Ce matin, Paul Arcand a posé des questions au ministre Carman. Hier, j'ai fait la même chose avec Catherine Lemay, qui est la directrice nationale de protection de la jeunesse. Les deux entrevues ont mis Nancy Audet dans tous ses états. Vous la connaissez, journaliste et marraine de la Fondation des jeunes de la DPJ, autrice de « Plus jamais la honte », elle a raconté son passé d'enfant de la DPJ. Elle a aussi présenté un mémoire il y a quelques semaines devant les parlementaires en matière de protection de l'enfance. Nancy, salut.
Salut, Patrick.
Comment t'as réagi en lisant le dossier de la presse hier?
Ben, j'étais pas étonnée. Ça, c'est des faits qu'on connaît depuis très longtemps. Je l'ai soulevé à de nombreuses reprises. D'ailleurs, il y a deux semaines au Parlement, donc à l'Assemblée nationale à Québec, j'ai dit à M. Carman et aux parlementaires qu'on avait un problème au niveau des contentions, au niveau de l'isolement aussi, des mesures qui souvent sont abusives. J'ai parlé aussi de fouilles à nu. Ça, on n'en parle pas, mais c'est aussi très problématique pour les enfants, des adolescents très jeunes qui subissent des fouilles complètes, qui sont abusives. J'ai des témoignages qui sont troublants. Et ça, je suis allée leur dire, donc, il y a deux semaines. Donc, on peut pas dire qu'on le sait pas, que je ne les ai pas alertés. Je les ai alertés à de nombreuses reprises.
Nancy, on va revenir à ton témoignage tantôt, mais je veux qu'on parle justement... Tu parles d'isolement. Tu l'as déjà dénoncé. Mais est-ce que l'isolement tel qu'il était décrit dans la presse hier, des enfants qui sont tannants, là, qui sont pas un danger pour eux-mêmes ou pour les autres, qui sont mis dans des unités de retrait qui ressemblent à des cellules de prison, ça, est-ce que tu savais que ça existait?
Oui, je savais que ça existait.
Parce à Laval que ou ailleurs?
Ça existe ailleurs aussi. Ça existe. Il y a des régions qui sont pires que d'autres parce que, vous savez, ça varie d'une région à l'autre, mais dans les Laurentides, ça existe. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça existe. J'ai des témoignages troublants. J'ai moi-même participé à un stage d'observation au Mont-Saint-Antoine, ici à Montréal, où j'ai vu des enfants qu'on amenait en isolement. J'ai visité les cellules. C'est troublant. J'y suis moi-même déjà allée quand j'étais jeune. J'étais adolescente et je suis restée très marquée par cette expérience-là d'isolement. C'est difficile pour un adolescent, c'est difficile pour un adulte. Hein, y a des hommes qui vont en isolement en prison qui vont vous dire à quel point c'est difficile à vivre. Mais ça, on fait vivre ça maintenant à des petits-enfants. J'ai un petit garçon dans les Laurentides qui a subi 300 mesures de contention en une seule année.
Contention, ça, c'est quand on t'attache.
Physique, okay. C'est des adultes qui t'empêchent de bouger. Et la plupart du temps, la mesure de contention est suivie d'une mesure d'isolement où on met ces petits-enfants-là dans des petites cellules. Là où ça dérape, je pense, beaucoup depuis quelques années, mais en fait, je te dis ça, puis ça existe quand même depuis longtemps, c'est qu'on utilise ces mesures-là qui devraient être exceptionnelles, Patrick. Hein. C'est contre la loi d'utiliser ces mesures-là à des fins répressives, hein, pour punir un enfant. Ça, c'est contre la loi. Ça, les droits de ces enfants sont lésés. Ils sont tannants, ils sont turbulents, ils n'écoutent pas, ils rouspètent. Bon, on va les prendre, puis on va les amener en isolement. Ça, c'est contre la loi. Et ça se fait très souvent pour plein de raisons. On pourrait en parler, toi et moi, longtemps, mais tu sais, dans les unités en ce moment où ça déborde, où il y a des éducateurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ils sortent de l'école. Il y a un gros taux de roulement. Les éducateurs me disent qu'ils n'ont reçu aucune formation pour travailler avec des jeunes qui souffrent de traumas complexes. Et là, c'est la panique rapidement. Les intervenants ont un petit bouton panique sur le chandail. Et dès que ça ne fait pas leur affaire ou ne sont pas capables de gérer la situation, au lieu d'intervenir avec le jeune comme ils devraient le faire, ben, on appuie sur le bouton panique. Les agents d'intervention arrivent et je vous dis, c'est rapide. Là. On ramasse le jeune, c'est très physique. Les enfants souvent se blessent, alors même physiquement. On voit que les enfants ont des blessures sur les jambes, sur les bras et on les amène en isolement.
Quelle a été ta réaction en entendant les explications de Lionel Carman chez Paul Arcan ce matin et de Catherine Lemay, qui est la directrice nationale de protection de la jeunesse, à mon micro hier?
Ben, on peut pas dire qu'ils sont pas au courant. C'est impossible. Ça me choque. Je ne comprends pas parce que ça fait très longtemps, Patrick, qu'on les interpelle, qu'on leur dit qu'il y a des problèmes, qu'il y a des mesures qui sont utilisées, qui sont pas adéquates pour les enfants. On voit beaucoup d'enfants qui entrent en centre jeunesse et qui sortent et qui sont en plus mauvais état que quand ils sont entrés. Faut pas oublier que ces enfants-là, Patrick, rentrent dans un centre jeunesse parce qu'ils ont été victimes de maltraitance. Là. Je vous rappelle que c'est des jeunes qui ont vécu dans des contextes de violence, qui ont subi de la violence corporelle, des agressions sexuelles, de la négligence grave. C'est des jeunes qui ont des traumas là, en plus et on ajoute une couche. Et ça fait longtemps qu'on les interpelle et qu'on leur dit qu'on doit faire le tour des centres jeunesse au Québec, qu'on doit aller voir ce qui se passe. Ça s'est détérioré énormément dans les dernières années. C'est pas juste moi qui le dis, c'est les commissaires aussi. Vous savez, il y a le rapport Laurent, c'est écrit noir sur blanc. Il y a des pratiques qui sont néfastes en ce moment. Et ça fait 2 ans qu'on leur dit, on parle d'états généraux, je suis désolée, mais ça fait longtemps là, qu'on leur dit qu'il y a un problème là qui est majeur. Ça fait souffrir les enfants, mais il n'y a pas d'action concrète. Moi, je leur dis, des enquêtes, là, ça suffit les enquêtes. Vous en avez fait 1000 enquêtes. C'est des actions concrètes. Parce que des enquêtes, j'en ai lu encore une en 2017 sur des mesures d'isolement, sur des contentions. Une enquête de la Commission des droits de la jeunesse, des droits de la personne, des droits de la jeunesse. J'ai lu ça, j'ai lu les recommandations. C'est en 2017, tout est là. Puis là, encore hier, vous nous annoncez une autre enquête là-dessus. Mais non, mais vous en avez fait une. Là. C'est des actions qu'on a besoin.
Qui parle fort pour les enfants?
Je ne sais pas. Je trouve que on n'entend pas assez de voix. Je ne sais pas pourquoi. Mais là, c'est urgent qu'on lève le ton. Je pense que, tu sais, moi, là, j'essaie de pas me laisser envahir par l'émotion, puis la colère, puis la tristesse, parce que c'est pas ça qui va faire en sorte que je vais pouvoir aider les enfants. Mais depuis quelque temps, ça m'envahit beaucoup. Je t'envahis par la colère, par la tristesse, parce que je vois des enfants qui souffrent énormément. Et on devrait tous être vraiment inquiétés de savoir qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, juste cette année, on a ouvert 4 nouvelles unités permanentes où on entasse des enfants. C'est nos enfants. De savoir que ici à Montréal, on vient d'ouvrir des petites unités de tout petits, des petits enfants de 5 ans, qu'on met dans des unités grises, sans vie, pas d'amour parental, pas d'affection. C'est épouvantable ce qu'on fait subir à ces enfants-là de voir ça puis de sentir une certaine indifférence, ça m'ébranle, ça me trouble. Je sais plus comment parler, je sais plus comment aborder les gens, comment les alerter. Je me casse la tête, qu'est-ce que je peux faire de plus? Tu sais, j'ai écrit un livre, là, tu le sais, il y a un an, il s'appelle « Tous courage ». J'ai tout écrit là-dedans, tout ce que j'ai observé dans les dernières années. Tu lis ça, je veux dire, je me dis, on peut pas ne pas être troublé puis ne pas avoir un sentiment d'urgence. Je sens pas le sentiment d'urgence chez M. Carman. Je ne sens pas le sentiment d'urgence chez Mme Lemay. Et ça, pour moi, c'est les deux personnes qui sont en haut là en ce moment-là. Puis s'il n'y a pas de sentiment d'urgence chez ces personnes-là, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Là. Moi, j'ai envie de les alerter aujourd'hui, je vous le dis. Là. Vous pensez que c'est grave à Laval? Là? Bien, M. Carman, je vous invite à vous rendre dans les Laurentides parce que je reçois 50% de mes messages là, troublants là, d'enfants qui subissent des choses. Ça se passe dans les Laurentides. Puis ça se passe aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Fait que je vous invite à aller voir les enfants puis à aller voir ce qu'ils vivent. Puis de toute façon, M. Carman, Patrick, le sait très bien parce qu'il y a 18 mois, je lui ai demandé de venir avec moi au Mont-Saint-Antoine, ici à Montréal, sur Sherbrooke, pour lui montrer les conditions de vie des enfants.
Très vétuste.
La moisissure sur les murs, des bains condamnés depuis 2 ans. Je veux dire, l'amphithéâtre, ça fait 2 ans qu'il est fermé parce qu'il y a trop de champignons. Les douches, c'est tellement dégueulasse. Je mettrais même pas un pied là-dedans. C'est inhumain qu'on laisse nos enfants là-dedans. C'est nos enfants, ces enfants-là aussi. Je l'ai amené il y a 18 mois pour dire « Regardez les conditions de vie des enfants. » Je ne peux pas croire les infiltrations d'eau partout. Il y a des bâches sur le toit. C'est non seulement les conditions de vie, mais en plus que ce qu'ils vivent, c'est ces petits garçons-là. Tu sais, je connais un adolescent de 14 ans pour sa fête. Là, à 14 ans, il a eu sa première fouille à nu. Puis, il s'en remet pas, Patrick. Parce que cet enfant-là, quand tu lis son dossier, tu comprends qu'il a vécu des choses puis qu'on ne devrait jamais, jamais lui demander de se déshabiller tout nu dans un fond de salle puis aller fouiller entre les fesses. C'est inacceptable qu'on fasse vivre ça à des enfants. C'est terminé. On peut-tu arriver avec des actions, là? Je veux dire, c'est nos enfants, ça. Moi, je comprends pas. Je l'ai amené avec moi en me disant, « Hey, ça va tellement le brasser, M. Carman, là, que tabarouette, dans 2 semaines, il va m'annoncer des travaux. »
Quand t'es allé en commission parlementaire?
Non, je l'ai amené en personne. Okay. Je l'ai amené visiter les enfants. Je l'ai amené visiter les lieux. Je l'ai fait asseoir avec les enfants, puis j'avais dit aux enfants, ça, c'est le ministre. Si tu as quelque chose à dire, c'est le temps d'y parler. Là. Lui, c'est le monsieur qui prend les décisions. Mais le monsieur, là, après 18 mois, là, il n'a pas pris les décisions. C'est sûr que j'ai une déception. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, j'ai envie de l'interpeller pour dire, là, venez voir les enfants, monsieur Carman. Mais surtout, pensez à comment on peut se mettre en action maintenant, pas dans 2 ans, pas dans 5 ans. Puis votre nouveau commissaire, là, s'il vous plaît, donnez-lui des pouvoirs, parce que je vais vous annoncer de quoi, là. Il ne pourra pas rien faire, le nouveau commissaire, si vous ne lui donnez pas des pouvoirs.
Le commissaire à la protection des enfants.
Au bien-être et à la protection des enfants. Dans le projet de loi actuel, je suis allée le dire il y a 2 semaines, il n'y a pas de pouvoir en ce moment. Il faut des amendements. Donnez-lui des pouvoirs pour qu'il puisse se mettre en action rapidement.
Merci, Nancy.
Merci.
Merci. Nancy Audet.
Patrick Lagacé, en accéléré.
L'immigration, c'est une compétence partagée entre Ottawa et Québec, mais souvent, la main gauche, c'est pas ce que la main droite fait. Donc, Québec gère une partie de l'immigration et on a certaines cibles, on a certaines réalités aussi, dont la question du français. Du côté d'Ottawa, ben, on le voit depuis quelques années, il y a une explosion de toutes les sortes d'immigration, notamment les immigrants temporaires qui ne parlent pas forcément français, qui veulent pas parler français, et ça inquiète beaucoup, beaucoup de Québécois. On se souviendra que François Legault, il y a près de 2 ans, avait parlé de l'urgence existentielle pour le Québec de contrôler l'immigration. Il voulait un mandat fort à l'aube de l'élection de octobre 2022. Pour avoir un levier face à Ottawa. On va écouter le chef de la CAQ quand il était en congrès au mois de mai 2022.
Je suis convaincu qu'une majorité des Québécois sont d'accord pour que le gouvernement fédéral nous transfère ses pouvoirs au gouvernement du Québec. C'est pour ça que je demande aux prochaines élections un mandat fort pour aller négocier ça avec le gouvernement fédéral. C'est une question de survie pour notre nation.
Donc ça, c'était il y a à peu près 2 ans. Aujourd'hui, ben le premier ministre est encore dans la logique du ras-le-bol, mais disons qu'il est moins catégorique sur les moyens pour faire plier Ottawa. On va parler de tout ça avec Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Monsieur Saint-Pierre Plamondon, bonjour.
Bonjour.
Donc, le premier ministre avait même laissé flotter l'idée de peut-être organiser un référendum pour forcer la main d'Ottawa sur la question de l'immigration. Vous le prenez au mot et vous dites qu'il serait temps d'organiser un référendum.
Ben, en effet, je constate que jamais François Legault n'a demandé les pouvoirs en immigration. Il n'a même pas fait cette demande-là formellement. Je pense que c'est parce qu'il se doute de la réponse. Et quelques jours avant le scrutin, lors des élections de 2022, en effet, il a évoqué, pour avoir un mandat encore plus fort, l'idée d'une consultation populaire, d'un référendum sur les pouvoirs en immigration spécifiquement. Ça non plus, on n'en a jamais entendu parler. Et donc, oui, je le prends au mot. C'est pas mon idée. C'est-à-dire que tant qu'à moi, on ferait mieux de sortir de tout ça et d'être un peuple normal, un pays normal qui décide par lui-même, au lieu d'avoir un gouvernement de trop qui décide à notre place puis d'essayer de négocier chaque élément. Mais puisque je pense pas que je vais convaincre François Legault de l'option de devenir un pays, qui me semble pourtant évidente, je vais au moins demander à François Legault de suivre les conseils de François Legault et d'aller de l'avant avec cette consultation sur l'immigration spécifique.
Là, on voit que Ottawa emmène large. Ottawa n'écoute pas vraiment les préoccupations du Québec par la voix de la ministre Christine Fréchette. Si vous étiez à sa place, à M. Legault, comment vous vous comporteriez face à Ottawa sur le dossier de l'immigration?
Bien, comme sur plusieurs autres dossiers, hein, parce qu'en santé, on a obtenu 1 milliard sur 6. Donc, quand il manque 5 milliards de manière récurrente dans le système de santé, ça a des impacts. Comme dans tous les autres dossiers, ce que je ferais, là, vous m'avez demandé de mettre à part l'essentiel de ce que je pense, c'est-à-dire qu'on devrait devenir un pays, mais regardez ce que la mairesse de Toronto a fait. Elle en a ras-le-bol des politiques en immigration de Ottawa, elle le dit. Elle a dit le trop grand nombre de demandes d'asile fait en sorte qu'on n'arrive plus financièrement et moi, donc, je dois trouver une solution. Je lancerai donc une taxe Trudeau. Si vous ne changez pas vos politiques, là, je vais lancer une taxe Trudeau et ce sera pour rembourser les coûts générés par vos politiques en la matière. Donc, on a vu la Saskatchewan, l'Alberta, puis je suis pas d'accord nécessairement avec chacune des provinces en termes de contenu de leurs revendications, mais il y a plusieurs autres provinces qui ont été plus solides, moins mollassons dans leur manière de remettre à sa place un gouvernement qui ne se mêle pas de ses affaires et qui ne respecte personne. De manière générale, je suis obligé de rajouter que, oui, le gouvernement de la CAQ pourrait prendre des mesures beaucoup plus fortes que des lettres puis des tweets, mais il faut prendre un pas de recul et réaliser que c'est pas normal de constamment avoir à se battre contre un gouvernement qui est pas le nôtre, mais qui perçoit presque la moitié de nos impôts. C'est vrai pour, en ce moment, là, on a le droit de retrait pour l'assurance médicaments. Ça vaut 900 millions. Puis là, le fédéral menace de plus nous le verser. Il y a le retrait pour le programme dentaire. Ça vaut 3 milliards. Il y a le rapatriement des pouvoirs en culture. Il y en a pour plus que 10 milliards de demandes caquistes pour lesquelles on n'a pas de résultat. C'est pas normal. Donc, on devrait aussi réaliser qu'on n'est peut-être pas obligé d'avoir ce gouvernement fédéral. Donc, je suis obligé de le rappeler.
Comment vous expliquez que M. Legault, avant la campagne électorale, on l'a entendu, j'ai fait jouer la clip de son congrès au mois de mai 2022, parlait d'une menace existentielle pour la nation. Et là, aujourd'hui, vous l'avez dit, ce sont des lettres, ce sont des tweets, on tape du pied, mais il n'y a pas d'action concrète pour avoir plus de contrôle sur l'immigration.
Mais c'est comme dans tous les autres domaines. Sur les seuils d'immigration, il a dit que c'était suicidaire d'aller à plus que 50 000. La première chose qu'ils ont fait, c'est d'augmenter les seuils à 65 000. Là, j'ai pas besoin de vous rappeler le troisième lien, le tramway, puis toutes les espèces de promesses et de déclarations pour lesquelles on n'a aucune cohérence, aucun suivi, silence radio par la suite. Donc, j'ai l'impression que ça va définir la CAQ dans l'histoire. C'est-à-dire qu'au terme de 8 ans de gouvernance caquiste, on va se rendre compte que tout ce qu'on nous a dit durant les élections n'avait aucun lien avec ce qu'ils avaient l'intention de faire. Et que donc, on n'aurait pas dû se fier du tout, du tout, du tout. J'ai l'impression que ça va être ça, l'héritage caquiste, parce que le temps passe. Et malheureusement, même là, en fin de match, on est à la fin de la troisième période pour la CAQ, ils n'osent pas demander les pouvoirs en immigration comme ils le prétendaient. Puis, il n'y a pas de volonté d'être cohérent par rapport aux déclarations qui ont été faites, soit en campagne électorale ou publiquement, là, un grand nombre d'engagements sur lesquels il n'y a pas de suivi, tout simplement.
OK, M. Saint-Pierre Plamondon, je vous amène sur d'autres dossiers, là, tandis que je vous ai au bout du fil. Je veux qu'on parle du remaniement prochain de la carte électorale au Québec, le directeur général des élections, qui est en train de plancher là-dessus. Comme à chaque exercice là, du genre, ça suscite des grincements de dents, là, possibilité que deux circonscriptions disparaissent. Une à Montréal, ça toucherait là, en partie votre circonscription, et une dans l'est du Québec. Et au cœur du problème, c'est qu'on ne veut jamais dépasser le nombre de 125 circonscriptions. Est-ce que vous pensez qu'il est temps de changer cet absolu et de dire on va créer d'autres circonscriptions?
C'est exactement ça. Donc, le DGE, il travaille à l'intérieur de la loi actuelle. Il est pris à tenter de créer deux nouvelles circonscriptions où il y a une population croissante, mais en devant enlever deux circonscriptions quelque part. Et là, ça donne que ce sont deux endroits qui sont désavantagés historiquement, c'est-à-dire l'Est de Montréal, puis la Gaspésie, qui deviendrait un méga comté qui prendrait 7 heures d'un côté à l'autre du comté là, pour le député qui doit se déplacer. Ça n'a aucun sens. Mais tout ça, en effet, découle du fait qu'on s'oblige à travailler avec 125 députés, qui est un chiffre qui remonte à plusieurs décennies. Là, maintenant, le Québec vient de franchir le cap des 9 millions d'habitants. On peut rajouter deux circonscriptions de plus puis travailler à 127. Dans les plans pour le nouveau Salon Bleu, pour la rénovation du Salon Bleu, il y a même de l'espace pour 129 sièges. Et c'est pour ça que le Parti libéral du Québec a eu une bonne idée. Il a proposé de faire l'élection de 2026 avec la même carte que 2022 par l'entremise d'une loi, mais au même moment déclencher un processus de rénovation, de réforme complète de la loi électorale, dans le cadre duquel on va se pencher sur le nombre de circonscriptions à ajouter, compte tenu que la population a beaucoup augmenté depuis le chiffre de 125 qui, je pense, remonte aux années 80. Donc, moi, ça me semble être la solution la plus la meilleure que j'ai entendue à date. Je l'ai soutenue. Je pense que Québec solidaire a également soutenu cette solution-là. Dans quel cas, il ne manque que la CAQ qui se retrouve avec le pouvoir essentiellement soit d'empêcher l'abolition d'une circonscription en Gaspésie et dans l'Est de Montréal en se joignant à cette solution-là, ou soit de laisser faire ça, ce qui serait, je pense, assez inexplicable dans les circonstances.
OK, en terminant, vous avez émis aujourd'hui l'idée de prendre les fonds qui étaient prévus pour les fameux espaces bleus, là, on le sait, qui sont morts-nés, pour les rediriger en partie vers des médias régionaux. Pour vous, c'est quoi un média régional? Qu'est-ce que vous avez en tête comme aide pour des médias régionaux?
En fait, j'ai dit deux choses. Donc, pour le milieu culturel et pour les médias régionaux, qui sont deux secteurs fragilisés et qui ont plusieurs revendications qui, ma foi, seraient pas mal plus utiles que le projet d'espace bleu. Donc, du côté culturel, il y a mille et une façons de soutenir la culture au Québec. Du côté des médias régionaux, je fais référence à la crise des médias. Les médias régionaux n'ont plus de distribution nécessairement en porte-à-porte. Mmh. Le papier est en train de disparaître. Et leurs revenus sont vampirisés par les méta Facebook de ce monde. Donc, pour certaines régions, le soutien du gouvernement devient nécessaire pour s'assurer qu'il y a de véritables médias régionaux. Et ça, ça coûte pas une fortune pour autant là, en termes de mesures publiques, mais ça a été demandé à plusieurs reprises. Le ministre se promenait avec un plan avant Noël. Il disait que le plan d'aide aux médias s'en venait. Et j'ai pas l'impression qu'on va voir quoi que ce soit au budget. Donc, je reviens, je fais un suivi en disant, vous étiez engagé à un plan pour les médias, vous êtes en train d'abolir certains de vos engagements parce que pour faire changement, vous n'aviez pas fait vos devoirs avant de faire l'annonce. Mais est-ce que vous pouvez au moins prendre une partie de ces sommes-là et remplir vos engagements par rapport aux médias, soutenir la culture au Québec? Donc, je lance ça en espérant que la bouteille à la mer se rende quelque part.
Intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne journée.
À la prochaine.
C'était Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du Parti québécois.
Patrick Lagacé en accéléré.
L'insécurité règne en Haïti, ça a souvent été vrai, mais ces jours-ci, c'est encore plus vrai. Des gangs font la loi. En 2023, On dénombrait, semble-t-il, 5000 morts à cause de ces troubles, de ces guerres entre gangs. Il y a une prison qui a été attaquée récemment et 4000 détenus ont été libérés. Même l'aéroport international de Port-au-Prince a été ciblé par un gang qui a tenté d'en prendre le contrôle. Bref, l'État haïtien est aux abonnés absents. Étienne Côté-Paluc est un journaliste québécois basé en Haïti. On le joint dans la capitale, Port-au-Prince. Étienne, salut!
Bonjour Patrick.
Étienne, peut-être nous raconter d'abord, on parlera des causes après, mais quel est le climat présentement à Port-au-Prince?
Bon, dans la ville, la municipalité de Port-au-Prince comme telle, depuis 2-3 jours, c'est un peu plus calme. Il y a beaucoup moins de tirs que samedi soir où c'était vraiment, on se sentait dans un pays en guerre, il y avait des tirs très très lourds pendant toute la soirée. Autour de la prison, évidemment, mais qu'on entendait un peu partout dans la ville. Là, c'est vraiment plus calme. Par contre, depuis hier, il y a encore beaucoup de tirs autour de l'aéroport international de Port-au-Prince, qui est un endroit quand même maintenant très urbanisé. Généralement, les buildings centraux sont protégés, mais tout autour est plus difficile à protéger. Donc, il semble, selon leurs témoignages sur les réseaux sociaux, que les hommes criminels armés là qui se sont coalisés pour essayer de déstabiliser le gouvernement voudraient empêcher l'arrivée du premier ministre Ariel Henry en Haïti. Il était à l'extérieur du pays, au Kenya, pour signer une entente de collaboration avec le gouvernement kenyan, justement pour que celui-ci envoie 1000 policiers en Haïti pour appuyer les forces de sécurité déjà sur le terrain.
OK, Étienne, parlons des racines du problème. Est-ce que c'est une guerre entre gangs ou c'est une guerre de gangs qui se sont mis ensemble contre l'État?
C'est vraiment la deuxième option. C'est vraiment une coalition de groupes armés. Eux se sont nommés Vivre Ensemble. Des groupes armés qui autrefois étaient rivaux, cette fois-ci se sont coalisés depuis quelques mois. Il y avait des rapprochements qui avaient été faits. Puis là, ils se sont mis ensemble pour faire une attaque concertée sur plusieurs institutions de l'État dans toute la grande région de Port-au-Prince. Donc, il y a eu des attaques à plein d'endroits symboliques, si on veut, en même temps, ce qui fait que la police a été vraiment étirée partout et a pas pu répondre à toutes les urgences qu'il y a eu, ce qui a amené la conséquence de samedi. Ça a commencé tout ça jeudi matin dernier. J'étais sur place à l'aéroport quand ça a commencé. Je devais prendre un vol qui était depuis reporté. Et tout à coup, ça s'est mis à tirer sur la partie est de la piste. Il y a eu des répliques de la police. Ça a fait qu'il y a des balles qui se sont logées sur un avion même. Et puis là, ça a commencé un peu partout dans le reste de la ville en même temps, des attaques concertées vraiment visiblement. Ils appellent au départ du gouvernement, à la démission du premier ministre Ariel Henry. Mais on leur connaît pas vraiment d'ambition politique. Donc, probablement pas qu'ils veulent prendre le pouvoir, mais certainement ils veulent imposer leur loi un peu plus.
OK. C'est quoi les effets concrets de ces troubles-là sur la vie des gens au quotidien en Haïti?
Bon, c'est une scène un peu triste qu'on a vue trop souvent dans les derniers mois, mais ça fait que des nouveaux quartiers, maintenant tout le quartier autour de la prison est abandonné par la police et les gens vident ces quartiers-là. C'était un des derniers remparts au centre-ville de la capitale, qui était encore sous contrôle de la police. Maintenant, les commerçants ont commencé à quitter dans les derniers jours. Il y a eu une espèce de... Depuis jeudi, il y a plein de gens qui ont quitté ces zones-là. Il y a des gens qui dorment aussi dans la rue en face du commissariat de Port-au-Prince, qui est un des derniers encore ouverts dans la ville, puis qui est le grand commissariat central sur le Champ de Mars. Et donc, les gens ne savent plus où aller. Ils vont chez des amis. Des fois, on me racontait aussi qu'on pouvait pas aller chez la famille parce que eux habitaient en banlieue, dans une zone où il fallait traverser une autre zone contrôlée par les groupes armés qui était trop dangereuse pour traverser. Donc, ils étaient pris un peu à errer dans la ville. Donc, c'est un nouveau quartier. On a vu ça aussi à l'automne passé. Il y avait un gros quartier. Ça fait 24 quartiers dans un gros arrondissement qui s'appelle Carrefour Feuille, qui avait subi le même sort au courant de l'automne, qui s'est vidé de la plupart de ses habitants. Donc, c'est à chaque fois le même scénario. Les groupes prennent le contrôle. Au départ, c'est pour des questions d'argent, mais rapidement, ils veulent contrôler tout, donc, et éventuellement officiellement instauré leurs propres lois et leurs propres règles sur le territoire.
Donc, on veut le départ du gouvernement, le renversement du gouvernement, mais on en profite pour terroriser puis piller les citoyens.
Et voilà. Donc, beaucoup des magasins au bas de la ville, du centre-ville, sur la grande rue, comme on appelle ici la rue principale, ont été pillés depuis samedi. Je parlais à un marchand samedi qui me disait, lundi, qui me disait que tout avait été détruit ou pillé. J'ai pas pu me descendre jusque-là parce que c'est vraiment un endroit très dangereux. Mais je me suis promené autour du pénitencier national qui a été saccagé et dont les prisonniers se sont évadés samedi. Et c'était vraiment à l'abandon. C'était triste à voir parce que les gens s'empressaient de prendre leurs affaires. Les seuls que j'ai vus croiser dans les rues pour partir de l'endroit parce que c'est une nouvelle zone d'un endroit qui vient de s'ajouter à une trop longue liste.
Est-ce qu'il y a des signes qui donnent à penser, Étienne Côté-Paluc, que l'État va reprendre le contrôle?
C'est une bonne question. Le seul plan de l'État, c'est, en tout cas à court terme, c'est l'arrivée de forces étrangères dans le pays pour appuyer la police nationale. C'est vraiment, il n'y a pas de plan B. Donc, tous les regards sont tournés vers cette intervention-là. Certains disent que c'est pour ça que les groupes armés criminels réagissent autant, parce qu'on vient de signer une entente là avec le Kenya, comme je disais, pour l'arrivée de ces troupes-là. Tout dépend de comment ça va se faire, comment ils vont opérer. Et donc, tout dépend d'eux, finalement, parce que la police est toujours, malgré 2 ans et demi au pouvoir, la police est toujours sous-équipée. Il manque de moyens pour répondre à la crise, ce qui fait que même les policiers commencent à avoir peur.
Et aujourd'hui, les Américains ont annoncé qu'ils n'enverront pas de troupes en Haïti, par ailleurs.
Oui, exactement. C'est les... Il y avait des gens qui avaient supposé cette idée-là, mais encore une fois, c'était un refus complet, même pour l'aéroport, par exemple, simplement parce que en ce moment, tous les vols sont annulés pratiquement depuis jeudi dernier. C'est difficile de sortir de la ville. C'est pratiquement impossible même de sortir de la ville en véhicule parce que toutes les routes autour de la ville sont contrôlées par des groupes criminels armés où on peut être kidnappé ou rançonné et autres. Donc, c'est impossible par la route, même la mer, c'est difficile parce que ils contrôlent beaucoup les bords de mer. Des fois, ils sont sur bateau. Donc, l'aéroport était un peu le dernier endroit qui nous permettait d'aller dans d'autres régions du pays, d'aller à l'extérieur du pays également. Mais là, si même lui est occupé ou impraticable, certains avaient demandé que les Américains interviennent, qu'ils envoient au moins des troupes pour sécuriser cet endroit-là, ou peut-être un ou deux autres endroits, mais ça a été un refus vraiment catégorique de la part de Washington à ce qu'on a appris aujourd'hui.
Ça fait des années, Étienne Côté-Paluc, que tu es correspondant là-bas en Haïti. C'est un pays que tu aimes beaucoup. Est-ce que depuis que tu es là, c'est le moment où le pays est à son plus mal?
Oui, je pense que même le séisme de 2010 n'a pas atteint ce niveau de désespoir-là chez les gens. Ce qui est vraiment difficile en ce moment, c'est que c'est une crise de longue haleine. Ça fait 3 ans que la crise a commencé, au moins, sinon un peu plus. Et c'est à chaque fois, c'est comme une coche de plus dans l'absurdité, dans l'intensité, dans les territoires conquis par ces groupes-là où on peut plus aller. C'est des amis qui souffrent aussi parce que ça fait 3 ans qu'on est en récession majeure. On a atteint des niveaux de 40-50% de la population qui sont en situation de malnutrition extrême selon l'Organisation mondiale de la santé, non, pardon, de la nutrition, l'OIM, non, en tout cas, peu importe, selon l'ONU, disons, pour simplement, et donc, c'est vraiment inquiétant de voir les gens autour de soi souffrir parce que c'est littéral, c'est-à-dire qu'on voit même des gens maigrir parce qu'ils n'arrivent pas à manger à leur faim, parce que l'économie est à l'arrêt complet à cause de la situation en Port-au-Prince, à cause de ce blocage complet des routes qui empêche le commerce, qui empêche toute autre activité possible dans le pays.
Merci Étienne, fais attention à toi.
Merci, à bientôt.
À la prochaine, c'était le correspondant québécois en Haïti, Étienne Côté-Paluc.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.